Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est des invitations qui ne se refusent pas, celle que m'a fait la librairie Mola, sa grande bonté, d'interroger Jens Christian Grøndahl. Vous pardonnerez la prononciation.
pas mal.
pardonnerez, je suppose, la prononciation, parce qu'après tout, pourquoi prononce peut-être très bien. Ne se refuse d'autant moins que je tiens, et on va tout de suite commencer par ce genre de compliments qui alourdissent un peu le débat et après lesquels il est difficile de rebondir et de répondre, que je le tiens pour un des romanciers européens les plus importants de ce temps, et pas depuis hier, pas depuis la publication de ce roman, depuis le tout premier que j'ai pu lire, qui n'était pas encore à l'époque aux éditions Gallimard, qui étaient aux défuntes et regrettées éditions du Serpent à Plumes. J'ai oublié le titre français d'ailleurs, mais c'était...
C'est Indien.
Voilà, l'été Indien, oui, absolument.
Indien, oui.
Pourquoi je tiens Jens Christian Grøndahl, et je ne suis pas le seul, pour l'un des écrivains les plus importants de ce temps? Parce qu'il est l'un de ceux dont j'aurai le plus de mal à vous expliquer pourquoi il est l'un de ceux les plus importants de ce temps. C'est-à-dire que, un peu à la manière de quelqu'un qu'il aime beaucoup, je crois, même si leur œuvre diffère totalement par d'autres aspects, qui est Patrick Modiano en France, on est beaucoup plus chez Mozart que chez Wagner. On est beaucoup plus dans une délicatesse d'approche qui est assez rétive à la démonstration et à l'explication, à la conceptualisation. Alors néanmoins, on va s'y essayer, aussi difficile que ce soit, peut-être pas à la conceptualisation, mais à une forme de narration critique ensemble ce soir. Donc vous publiez, c'est peut-être votre, je sais, tiens, j'aurais dû compter, c'est peut-être votre 8, 9, 10e roman traduit en français.
Je pense que c'est le 10e.
Le 10e, oui, hein, c'est
oui.
Ça.
Avec Etsé Indien qui est apparu.
Avec En comptant Etsé Indien, Serpent, oui, absolument.
Oui, oui.
Vous publiez donc Les Complémentaires, qui est un récit qui, comme souvent chez vous, se développe sur deux plans et deux sites différents, essentiellement le Danemark, mais avec une partie anglaise importante, on va y revenir. Et alors, tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, en vous remerciant d'abord d'avoir répondu à la double invitation de la librairie Mola, et bien entendu du festival Lettres du Monde, dont vous êtes l'invité pour quelques jours encore, ici à Bordeaux, et un peu partout en Gironde. Sur ces 10 livres que vous avez publiés en France, il y a 9 romans. Et un livre un peu différent dans la jolie collection Traits et Portraits du Mercure de France. Mmh. Pas de recueil de nouvelles, pas vraiment, enfin, en tout cas. Des novellas, comme on dit, mais, c'est-à-dire des courts romans, mais pas de recueil de nouvelles.
Pas de nouvelles, non.
Pas de docu-fiction. Mmh. Vraiment le roman.
Je dirais que le livre tes mémoires, c'est une autofiction, au moins si on admet que il est quasiment impossible d'écrire ses mémoires. C'est toujours une construction, c'est toujours un récit qui est plus proche à la fiction qu'elle est à la vérité, parce que on n'arrive jamais vraiment à raconter la vérité, n'est-ce pas? Comme ça, j'accepterais la notion d'autofiction, même si j'ai bien compris que cette notion a créé un débat ici en France concernant l'auteur et le monde, et est-ce qu'il est possible pour un auteur de se focaliser seulement sur son être à soi? Est-ce qu'il faut ouvrir un peu le perspective? Mais peut-être un autre débat, je ne sais pas.
On va y revenir.
On va y revenir peut-être, oui.
Alors, on a dit, on commence à dire, parce que le livre est sorti il y a très peu de temps. Hein,
oui, il y a quelques semaines, je trouve.
En France, moins que ça, quelques jours, je crois. On dit de ce livre qu'il est votre plus politique, au sens le plus relié à une actualité brûlante, ontologiquement brûlante. Je pense notamment aux montées, ou supposées montées des communautarismes aujourd'hui. Et en fait, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, moi, qui ai eu la chance de vous lire, je crois, tous les livres. Je pense que vos livres le sont tous, enfin presque, peut-être pas Virginia, mais presque tous, plus ou moins, que vos livres sont à la fois des éducations sentimentales, tous, ou parfois des rééducations sentimentales, et que vos livres sont des récits générationnels.
Il y a toujours, l'histoire est toujours là, au fond de mes récits, mais pas, non dans un sens direct, bien parce sûr. Que je n'ai pas l'ambition d'écrire des romans politiques, et à mon avis, il faut toujours interpréter l'histoire contemporaine à travers les destins individuels. C'est le travail du romancier, à mon avis, de se mettre dans la peau de quelqu'un fictionalisé, mais de voir et comprendre et interpréter l'histoire contemporaine à travers le destin de mon protagoniste. C'était toujours mon façon de me rapprocher à ce qui se passe dans la société largement. Mais il est vrai qu'il y a des romans qui sont plus proches de l'histoire que des autres. Vous avez fait mention du Virginie qui touche à les événements du Deuxième Guerre mondiale. Il y a un roman qui s'appelle « Sous un autre jour » qui touche au destin juif dans l'Europe. Il y a « Les mains rouges » qui s'occupe avec les années de plomb, avec le terrorisme, mais une fois de plus, à travers la description d'une histoire de vie assez personnelle. Et c'est ce que je trouve que j'ai souvent pensé que j'appartiens à une génération qui avait un peu rompu avec l'histoire. Parce que avant, on avait la génération de 68, qui était une génération assez politique, n'est-ce pas? Et à l'époque, on avait aussi une conception de la littérature parallèlement politique. On voulait que l'auteur, c'était quelqu'un engagé. Après, nous avons rompu avec cette idée, et on a voulu focaliser sur ceux qui restent existentiels avant qu'ils commencent à être politiques. Et ça reflète aussi l'expérience d'une génération qui a vécu dans les banlieues. Et je dirais même que les banlieues, comme architecture, symbolisent un peu ce qui s'est passé avec le lien avec l'histoire. Parce que chez nous, au Scandinavie, on avait pendant les années 60-70 un peu perdu le lien avec l'histoire. Après une génération, la génération de guerre, qui avait vécu non seulement la guerre, mais l'histoire même, et comment l'histoire avait s'était imposée sur les vies individuelles. Nous avons une expérience tout à fait différente, et comme ça, on avait le besoin peut-être de retrouver les liens avec l'histoire. Et c'est peut-être pourquoi, dans tous mes romans, j'ai essayé de retrouver ces traces de l'histoire commune dans les destins individuels. Et c'est devenu plus en plus clair et prononcé. Et avec ce roman ici, c'est tout à fait clair que je touche à des thèmes assez contemporains en ce qui concerne le débat sur le multiculturalisme, le conflit entre les cultures, la liberté envers les racines culturelles, etc. Mais une fois de plus, j'ai voulu contempler ces questions à travers des vrais individus, des vraies vies. Ce qui sépare ce livre des autres est aussi que cette fois-ci, j'ai deux voix de narrative. Il y a deux personnages qu'on suit parallèlement. Et j'ai découpé le narratif ainsi qu'on peut suivre les deux. Ils ne savent pas la même chose en même temps. Et comme ça, je peux jouer un peu avec les consciences différentes, avec deux manières différentes de comprendre les mêmes événements. Il est question d'un couple, un couple marié depuis une vingtaine des années, même plus. Le protagoniste masculin, c'est David Fischer, un avocat, un bourgeois, qui a des origines juives. Mais dans sa jeunesse, il a décidé de rompre avec ses racines juives. Il a voulu faucher son destin à lui. Il s'est dit que son identité n'est pas liée à ce qu'il n'a pas choisi lui. Son destin, son identité, c'est quelque chose à lui de construire. Donc il a rompu avec ses origines, il a marié une femme, une jeune femme anglaise, qui a elle aussi quitté ses racines pour vivre avec lui au Danemark. Et ils ont une fille, Zoé, qui est maintenant dans ses années vingtaine, qui étudie à l'Académie des Beaux-Arts, comme l'avait fait Emma, sa mère aussi, mais dans sa jeunesse, Emma a choisi de à peu près abandonner ses ambitions de devenir artiste pour se concentrer sur la vie de famille et son rôle de mère. Et maintenant, il vit cette vie assez aisée dans les banlieues boches de Copenhague. C'est là où on les rencontre. Et un bel jour, quelque chose se passe. Ce qui se passe, c'est que Zoé va présenter son nouvel ami, qui est un garçon pakistanais, musulman. Et au début, les deux parents, qui sont tout à fait émancipés, modernes, démocratiques, etc., ils disent tous les deux, mais ça ne pose pas de problème, évidemment, il est le bienvenu. Mais on les suit pendant quelques journées et soudainement, les questions d'identité se posent une fois de plus. Il devient important pour David surtout de réfléchir un peu sur l'équilibre entre la liberté qu'il a toujours choisi, la liberté d'être ce qu'il veut, et à l'autre côté, le fait qu'il reste juif, même s'il ne veut pas. Et c'est là que vous le rencontrez. Et au fil du roman, on va voir comment il change un peu sa notion d'appartenance.
Alors, vous laissez de côté un élément important, à mon avis. Fait penser à cette si belle phrase de Bernard Franck, regretté Bernard Franck, l'auteur des Rats, qui a dit un jour, c'est le régime de Vichy qui m'a appris que j'étais juif. David, oui, il a rejeté sa judaïté, il a fait mine peut-être de l'oublier. Eh bien, lui, c'est sa boîte aux lettres qui va lui rappeler qu'il est juif. Mmh, et oui. Je crois que le rosebud de cette histoire, avant l'histoire de sa fille qui est en couple désormais avec un étudiant d'origine pakistanaise, danois, mais d'origine pakistanaise, musulman, c'est donc la découverte de sa boîte aux lettres souillée d'un tag raciste, enfin antisémite, qui brutalement va le faire basculer de l'autre côté de sa tranquillité.
Se croit, comment dire en français, se croit gammé. Il découvre qu'il y a quelqu'un qui a dessiné un croix gammé sur la boîte postale, ce qui était vraiment le début pour moi, avant que j'ai concipé le roman. Il y a une dizaine d'années que j'ai visité à Vilnius, où on avait publié un de mes romans, et j'ai rencontré une fille qui m'a dit « Je suis juive, mais ici, il n'y a presque pas de juifs. » Et où on avait la plus grande synagogue de Vilnius, il y a maintenant un parking. Et la seule chose qui me raconte que je suis juive, c'est chaque fois que quelqu'un dessine un croix gammée sur mon boîte postale. Donc c'était ça, son contact avec le fait qu'elle était juive. Et cela a resté dans ma conscience. J'ai beaucoup réfléchi sur ce fait. C'était comment j'ai commencé à penser ce roman. Qu'est-ce que ça veut dire que si quelqu'un qui est complètement laïque, quelqu'un qui a complètement laissé ses racines juives, fait cette découverte un bel matin, que quelqu'un, n'importe quel garçon, a dessiné ce croix gammée. Parce que ce n'est pas le croix gammée qui est l'important, parce que, comme le dit sa femme, écoutez, c'est un gosse qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il connaît, parce que dans les écoles, on n'enseigne pas plus l'histoire aussi précise comme avant. Mais il dit, non, c'est pas le croix gammée, c'est le fait que j'en pense tout le temps. C'est le fait que, avec ce croix et avec mes réactions, je suis plongé dans ce que j'avais échappé. Ces questions, est-ce que je suis juive? Qu'est-ce qu'on pense de moi en tant que juive? Et c'est là, vous avez complètement raison, c'est là qu'il commence vraiment à réfléchir. Et après, il y a le dîner avec le jeune Pakistanais qui est un jeune homme complètement laïque, lui aussi. Il étudie le médecin. Et il est complètement ouvert au fait que sa fiancée est la fille d'un juif. Mais il y a cette discussion pénible à la table où tout le monde veut montrer comment on est tolérant. Et comme ça, on est complètement entrapé dans cette drôle discussion des identités, parce que c'est autour la question d'Israël. Le jeune homme dit que mais moi je ne suis pas contre Israël. Et David, c'est lui qui dit mais je ne suis jamais allé, ça ne me dit rien. Et après, il se demande pourquoi était-il aussi important pour moi de nier toute relation avec Israël. Pourquoi est-ce que je suis maintenant complètement entouré par ceux que je n'ai pas voulu comme identité partagée? Et c'est à travers cette discussion et le drame après, parce qu'après que le jeune couple a quitté la maison, il y a cette confrontation entre David et Emma concernant le fait que David n'a jamais voulu admettre le fait qu'il est juif. Ce que Emma lui reproche de celui-ci. Et soudainement, une relation qui a été complètement essaie devient compliquée, parce que ça devient un drame non seulement sur les identités, mais sur tous les secrets d'un couple, parce que dans chaque couple qui a vécu ensemble dans plusieurs décennies, il y a toujours les coins à l'abri, il y a toujours les secrets, il y a les choses qu'on n'a jamais vraiment racontées, et il y a aussi le passé avant l'histoire du couple. Il y a pour tous les deux des histoires d'amour qui font surface une fois de plus. Et comme ça, et c'est ce que j'aime bien faire, vous avez une histoire qui est à la fois une histoire des conflits de la société et une histoire de famille, une histoire des émotions complètement banales, si vous voulez, mais qui sont liées à la vie même, à la vie ensemble, aux émotions et les relations entre hommes et femmes, etc.
Alors, je parlais tout à l'heure de communautarisme. Je crois que ça fait partie de vos miroirs aux alouettes. Je ne sais pas si l'expression, vous la comprendrez totalement. C'est-à-dire que ce roman, comme tous vos romans d'ailleurs, sont une suite de motifs cachés dans le tapis. En fait, la vraie communauté dont vous parlez dans ce livre, me semble-t-il, hein, vous pouvez évidemment me contredire, ça me vexera un petit peu, mais tant pis, c'est la communauté première qui est celle du couple.
C'est ça. C'est ce que découvert tous les deux, mais ce que dit Emma vers la fin, c'est la vraie communauté. Ce sont les relations personnelles. On peut venir d'importe où, mais ce qui pèse, ce sont les choix qu'on a faits en ce qui concerne les relations et le fait qu'on reste ensemble, le fait qu'on partage le même destin. Ce qui est reflété aussi au moment que rencontre David, le père du jeune Pakistanais, il est chauffeur de taxi, mais avant il était ingénieur. C'est quelqu'un qui a eu une vie tout à fait différente avant qu'il est venu au Danemark et est devenu chauffeur de taxi. Mais lui aussi, il a une histoire qui n'a rien à faire avec l'être musulmane ou l'être pakistanais, mais qui a à faire avec le fait que sa femme est morte. Et il est seul avec avec un fils et une fille, et le fils est en train de se libérer de la vie de famille, et la fille reste là, et elle va rester, et ce qu'il craint, c'est qu'elle ne va jamais marier, parce qu'elle reste avec son père pour lui protéger, pour être là pour lui. Et le père ne veut pas ça, il veut qu'elle se libère, il veut qu'elle se marie, qu'elle mène une vie personnelle. Et c'est là que vous rencontrez, encore une fois, cette histoire personnelle qui est plus profonde dans la vie de quelqu'un que les questions plus superficielles des racines ou appartenance ou identité culturelle.
Alors, un exemple de ce qui peut séparer ce couple, et c'est très symptomatique de votre œuvre, où chaque personnage, il y a une espèce d'arborescence, vous savez, comme sur Internet, où avec chacun est porteur de 4, 5, 6, 10 romans à suivre, d'une certaine manière. Donc, un exemple de ce qui peut séparer votre couple, c'est leur rapport au père. Le père, c'est presque aussi important que le couple dans ce livre. Lui, David, cherchait plutôt à oublier son père, avec qui il a eu des relations un peu difficiles, je crois. Mm-hmm. Et quant à Emma, elle voudrait bien le retrouver, puisqu'elle a perdu son père dans un accident de bateau, dans des circonstances très particulières, puisque son père a disparu alors qu'il était avec une femme qui n'était pas sa propre femme. Et donc il y a un manque de père qu'elle aimerait bien, qu'elle a longtemps espéré combler d'une certaine manière. Mmh. Voilà un exemple type de ce qui fait sens, récit, roman, dans ce livre.
Oui, et ce thème dont j'ai touché il y a quelques instants se reflète aussi dans la relation entre David et son père, parce que son père était tout à fait laïque aussi, mais dans son après qu'il a vieilli, il est devenu très fidèle, presque orthodoxe. Mais son histoire au niveau superficiel, c'est cela qui a créé des conflits entre lui et son fils, parce que son fils n'aime pas la manière, à son avis, assez superficielle dont son père est devenu orthodoxe, parce qu'il a vieilli. Mais au fond, il y a un autre conflit qui a à faire avec le fait que son père a commis un crime, un petit crime, mais c'était quand même quelqu'un de tricheur. Il a commis un petit crime, et c'était pour ça. Du fait que le fait qu'il ne peut pas respecter son père comme en tant qu'homme, c'est vraiment au fond de son conflit avec lui.
Et ces deux personnages sont tous les deux, et ça aussi c'est très fréquent chez vous, enfin dans votre œuvre, sont tous les deux profondément déracinés. Alors, on a longuement parlé de David et de son inconscience, de ce sentiment de déracinement vis-à-vis de sa judaïté. Quant à Emma, c'est très aisément explicable. C'est quelqu'un qui a mis, je ne sais pas combien, de milliers de kilomètres entre son enfance, sa jeunesse et sa vie de femme, entre le Danemark et l'Angleterre. Mmh. Et très souvent, vos livres se déploient sur plusieurs plans géographiques, comme ça. C'était le cas, pas nécessairement temporel, mais géographique, c'était le cas...
Oui, c'est vrai. Ça m'arrive toujours que l'histoire se déplace, et qu'il y a ces déplacements au niveau des choix de vie et aussi dans l'histoire même, qu'on se déplace tout le temps. Et c'est pas réfléchi, c'est pas un choix que j'ai fait au début, que je veux écrire des romans où on se déplace tout le temps, où il y a cet déracinement. Mais quand je réfléchis, je pense que cela a peut-être à faire avec l'impermanence de l'être postmoderne, le fait qu'on n'est plus aussi lié à un endroit, une ville. C'est devenu une condition moderne de se déplacer, de découvrir comment tout est en mouvement, comment on peut jamais, si on tourne le dos, tout sera changé.
Mais de fait, vos deux personnages, David et Emma, ne vivent un peu nulle part, mm-hmm. au fond. Mm-hmm. Je disais imprudemment qu'ils vivaient à Copenhague, oui, certes, mais oui et non. Ils vivent dans des quartiers périphériques, mm-hmm. pavillonnaires, aisés, mm-hmm. certainement aisés, mm-hmm. mais sans. Des quartiers qui sont un peu à l'image de leur propre vie, de la façon dont ils se sentent, un peu comme ça, au bord, tout au bord des choses.
Il est vrai, je dirais même que ce caractéristique se reflète aussi dans ma vie d'écrivain, moi, parce que moi, j'ai aussi vécu ce conflit entre ce qu'on appellerait une identité culturelle en tant qu'écrivain et en même temps la volonté de l'universalisme. Il faut expliquer un peu, je pense, mais si on écrit dans une langue assez limitée comme le danois, on est 5 millions d'habitants, n'est-ce pas? Donc c'est une toute petite langue. Si on écrit dans cette langue, on vit ce paradoxe qui est que, évidemment, un écrivain est toujours enraciné dans la tradition de cette langue, ça veut dire une tradition tout à fait nationale. Et en même temps, si on est l'écrivain que je suis, on a aussi l'ambition d'aller au-delà des limites d'une tradition nationale. Il y a toujours chez moi un envie, une volonté de partager une culture plutôt universelle, culture littéraire, culture de l'humanisme. Et c'est un paradoxe parce qu'évidemment, on ne peut pas échapper à sa langue et on ne veut pas échapper à sa langue. Je ne peux écrire qu'en danois. Mais en même temps, je me sens mal à l'aise si on me caractérise comme écrivain danois. Et je n'ai pas envie de voir représenter une tradition spécifique, une tradition nationale. Et j'en ai marre de cette notion qu'on est représentant de quelque chose. Parce que moi, je suis l'écrivain que je suis devenu. Et parfois, je me sens beaucoup plus proche à des écrivains français, comme vous avez cité Patrick Modiano, Marguerite Duras, il y a des autres aussi. Claude Simon m'a beaucoup influencé. C'est à ma jeunesse. Comme ça, il y a des relations choisies dans la littérature qui pèsent beaucoup plus que le fait que je suis danois. Et si vous contemplez mes histoires, il est évident qu'il était parfaitement possible pour ces histoires de se dérouler dans des autres pays européens aussi. Mais en même temps, avec les années, avec l'âge, moi aussi, j'ai fait la découverte que oui, je suis danois, oui, j'appartiens à cette tradition. Quand je relis Andersen ou Herman Bang ou tous les classiques danois, il devient complètement évident comment j'ai hérité quelque chose d'eux, comment ils m'ont marqué en tant qu'écrivain. Donc, il est question de plutôt que d'échapper son identité comme l'a voulu David dans mon histoire, il est plutôt question de trouver un équilibre entre le fait que j'appartiens à une tradition et le fait que je voudrais me sentir libre et de partager ce que j'ai essayé d'exprimer avec des lecteurs qui ne partagent pas mon culture à moi. C'est pourquoi j'ai été aussi soulagé la première fois que j'ai été traduit en français, parce que chez vous, vous avez une culture littéraire beaucoup plus accueillante que la culture au Danemark, mais aussi parce que c'était vraiment l'épreuve. Est-ce qu'il est possible pour des lecteurs, lectrices français de comprendre ce que j'ai voulu exprimer? Et c'est grâce à mon traducteur Alain Knetic, qui est lui aussi un écrivain, c'est grâce à lui et grâce à la subtilité de son oreille, sa manière de rendre non seulement l'histoire, mais mon style aussi, c'est grâce à lui que j'ai l'impression que parfois c'est réussi.
Ouais, je crois qu'effectivement, il n'est pas... je ne vous surprendrai pas en vous disant que je ne parle pas un mot de danois, mais je crois qu'il n'est pas utile de parler la langue pour comprendre si une traduction à l'oreille, si une traduction est réussie ou pas. Et vraiment, vraiment, c'est frappant dès le début, en fait. Les traductions d'Alain Gnédig sont absolument exemplaires.
En fait, c'était lui, Alain, qui a inventé le titre français pour ce roman, parce qu'en danois, le titre est complètement différent. Le titre en danois, c'est directement traduit, c'est quelque chose comme « tu ne dois pas faire comme ça ». C'est une phrase que dit David à la fin du livre. Il faut le lire pour comprendre pourquoi. Il le dit à Zoé, sa fille, tu ne dois pas faire comme ça. C'est la dernière fois qu'il essaie de faire pécer son rôle de père. Mais Alain a inventé ce titre qui est mieux, je pense. En fait, c'est un meilleur titre que le mien, les complémentaires, parce que ça reflète au niveau encore plus profond ce que j'ai essayé d'exprimer avec ce livre.
Alors, je reviens sur ce que vous disiez, vous parliez d'universalisme. Certes, j'allais dire que c'est une anthologie en matière de littérature, enfin, ça devrait l'être, en tout cas, l'universalisme, mais le mot est venu naturellement à vos lèvres. Vous avez parlé d'Europe, et moi, je trouve que universalisme, oui, mais aussi, peut-être avant tout, pour moi, un formidable exemple, ou plutôt une continuation, du très grand roman européen. Vos livres, évidemment, nous en apprennent beaucoup sur le Danemark, mais Pioche, en France, vous l'avez dit, pas beaucoup narrativement. En Angleterre, ici, en Hollande, en Allemagne, en Suède, j'en oublie certainement. C'est les autres pays.
Il y a 30 pays maintenant qu'on a traduit mes livres.
Oui, alors je ne parlais pas des traductions, mais je parlais des pays dans lesquels tel ou tel de vos livres peuvent parfois se dérouler.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Oui, oui.
Et vraiment, je crois qu'il y a quelque chose comme l'ébauche d'un engagement européen dans votre littérature. Est-ce que ça vous paraît un peu grandiloquent, ça ? Est-ce que vous avez conscience de cette dimension européenne de vos livres ?
Ce qui est drôle, c'est après qu'on est traduit, on ne peut pas échapper à la pensée que ce que j'ai écrit va être lu dans des autres pays aussi. Donc, on perd un peu son innocence en ce qui concerne l'idée, l'horizon, la perspective dans laquelle on écrit. Mais il est vrai que je me sens plutôt comme écrivain européen. Et pour moi, l'Europe, en ce qui concerne la littérature, c'est pas l'Europe des idées. C'est clair qu'on partage des idées venant des Lumières, les idées de la démocratie, etc. Mais pour moi, l'Europe, c'est plutôt une manière de vivre. On le sait, dès qu'on visite des autres continents, dès qu'on revient, on sait qu'on est européen. Et si on est en Afrique ou en Asie, on raconte un français ou un italien, on se sent comme européen. Dès qu'on est revenu, on se sent comme italien et danois. Donc, c'est cette paradoxe de la diversité qui m'intéresse. Et c'est non seulement la diversité des nations, la diversité des langues, des cultures, c'est une diversité qui touche à la condition humaine, je trouve. Parce que même dans une société comme le vôtre ou le mien, il y a une diversité des destins. C'est quelque chose qui appartient à la démocratie, la culture moderne, le fait qu'on est plutôt des individus qu'on est des représentants des classes ou des cultures. Et comme ça, il est vrai que je me sens assez européen et je trouve aussi que ces jours, nos vies sont plus semblables qu'auparavant. Il est plus facile de comprendre ce qui se passe dans les autres pays et en même temps, on ne le fait pas. Le scandale européen, c'est le fait qu'on connaît si peu les autres Européens. On sait si peu de les vies, de la vie sociale dans les autres pays, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on peut avoir l'espoir modeste que peut-être que les romans peuvent aider un peu à l'échange des expériences au niveau européen. Au moins, il me frappe chaque fois que je viens ici en France, comment votre culture littéraire accueille les littératures de l'Europe et comment, pour un écrivain venant d'un petit pays, le premier stop, c'est Paris, parce que c'est dans la culture littéraire française qu'on est découvert par les autres pays aussi. C'est à travers votre curiosité, votre ouverture en ce qui concerne les autres langues, les autres cultures.
Permettez-moi une indiscrétion. Est-ce que vous venez de dire votre premier stop, c'est Paris? Est-ce que ça a été le cas, très précisément pour vous, dans votre vie? Je n'ai pas de raison de mettre en doute la qualité de l'étude du français au Danemark. Mais pour parler si bien le français, je me dis que vous avez dû passer quand même quelques temps en France.
Je suis venu en France pendant toute ma vie, mais surtout pour des séjours assez brefs, peut-être un mois, deux mois à la fois. Avant, je suis souvent venu à Paris pour travailler. S'il y avait une amie, une vieille dame qui avait une maison en Espagne, et chaque fois qu'elle est venue, elle est allée en Espagne, chez Louis, son appartement, rive gauche, tout près. En fait, c'est en rue Banappe, ici, vis-à-vis les éditions de Minuit. Et c'était magique pour moi, parce qu'à l'époque, j'ai été complètement bouleversé par le nouveau roman, qui n'était pas aussi nouveau à ce temps-là, mais c'était quand même vivre cette ambiance littéraire du quartier latin, du quartier Saint-Michel, Saint-Chemin. Et il est vrai que j'ai beaucoup travaillé là, dans ma jeunesse, et c'était avant que j'ai été traduit, donc j'ai écrit en danois, en espérant que peut-être un pêcheur, on va me lire en français.
J'imagine qu'on doit être là, dans ce que vous nous racontez, quelque part au mi-temps des années 70. Et tous vos livres sont quand même, enfin tous vos livres, non pas tous, mais beaucoup, sont aussi un long et plus ou moins accompli processus de deuil envers ces années 70. Alors est-ce que c'est parce que, tout bêtement, il n'y a rien de moins bête que ça d'ailleurs, c'était celle de votre jeunesse, ou est-ce que vous semble pas quand même qu'il y avait là, dans ces années-là, quelque chose qui est de l'ordre du secret perdu quand même?
C'est vrai, on n'avait pas des ordinateurs, on n'avait pas des mobiles, on avait une Europe divisée, on avait une ambiance politique complètement différente, avec des conflits, avec des ruptures. On avait une ouverture aussi que je manque aujourd'hui. Mais il est vrai que j'ai jamais réfléchi beaucoup sur ce fait, mais vous avez complètement raison, que je reviens tout le temps aux années 70. Il est question, je trouve, du fait que lorsqu'on est jeune, on veut bien écrire sur la vie. Et après qu'on commence à vieillir un peu, on fait la découverte que ce qu'on peut faire, c'est écrire la vie qu'on a connue. On peut écrire l'expérience d'une génération, et c'est tout. Et si on a écrit quelque chose de qualité, peut-être qu'on va le lire après. Peut-être que des autres générations vont comprendre un peu de votre expérience. Mais c'est une chose importante pour un écrivain d'admettre le fait qu'on est limité. Personne ne peut écrire sur la vie. Ça nous échappe si on fait laisser l'effort. Mais on peut écrire ce qu'on a connu. On peut l'essayer. Et avec ces limitations vient aussi la liberté de trouver sa voie personnelle. Parce que c'est vraiment le but d'un écrivain, c'est de trouver son voie, de trouver sa manière d'écrire. On commence par être influencé. J'ai été tellement soulagé quand j'ai lu dans un essai de Marcel Proust qu'il a conseillé aux jeunes écrivains de faire des pastiches. Parce que pendant qu'on essaie d'écrire à la manière de quelqu'un, ce n'aboutira à rien, parce que ça ne se fait pas. Et avec l'échec, on commence à découvrir sa voix personnelle, la manière dont on ne peut pas échapper. Et c'est ce que j'ai fait, mais avec cette liberté de trouver mon style à moi, vient aussi la conscience qu'il y a des limites, que ce que je fais, c'est vraiment revenir à les mêmes lieux, les mêmes expériences, les mêmes moments de ma jeunesse, qui étaient, c'est vrai, les années 70. Et il y a aussi... comme vous l'avez déjà cité, les événements de cette période-là. C'est drôle comment on oublie un temps différent. Par exemple, le fait qu'il y avait l'angoisse liée avec, le nucléaire, le conflit possible entre les deux blocs, n'est-ce pas, et l'angoisse, la dépression même de ces années-là est quelque chose qu'on a un peu oublié. J'essaie de retracer cela, même dans un livre que j'ai commencé à écrire maintenant, on revient une fois de plus à les années 70.
Je crois que c'est une angoisse qui était encore plus forte, certainement, en Scandinavie, pour des raisons géographiques aisément compréhensibles, même si ça existait partout dans le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins, je crois que tous vos livres s'additionnent, enfin, c'est une espèce de motif d'une même tapisserie, presque tous vos livres. Il y a des écrivains qu'on aime beaucoup, tous les deux, Patrick Modiano, encore une fois, à qui on reproche d'écrire le même livre. Et j'ai tendance, pardon de le citer, à dire que non, il n'écrit pas le même livre, il le poursuit. Et je dirais exactement la même chose de vous. Mmh. On pourrait croire que vos livres sont les mêmes, mais de fait, c'est pas tous vos livres qui sont les mêmes, mais ce n'est qu'un seul grand livre que vous poursuivez en autant de chapitres romanesques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
J'ai lu un entretien avec Modiano il y a quelques années où on a posé cette question et il a dit, mais oui, c'est vrai, mais chaque fois qu'il commence un livre, il a l'espoir d'échapper finalement, de pouvoir finalement faire autrement. Et après qu'il a rédigé son livre, il fait la découverte qu'une fois de plus, il est revenu à Paris, les années 60, etc. Mais je pense qu'il fait la même découverte que dont vous faites mention et que je reconnais très bien, le fait qu'il est vraiment question d'un grand livre, une œuvre cohérente qui est en train de se dérouler. Et comme ça, je pense qu'il faut rester fidèle à ce qu'on peut faire en tant qu'écrivain. Moi, je n'aime pas beaucoup l'idée de me réinventer chaque fois que j'écris un nouvel livre. En même temps, j'ai aussi souvent le sentiment qu'il y a encore quelque chose un peu différent dans ce nouvel livre. C'est pas complètement la même chose. Il y a des petites alternances de style, des thèmes aussi. Et il est aussi question du fait que j'ai vieilli, que je ne suis pas le même comme je l'étais quand j'ai écrit mon premier roman. Donc, ma conception de l'amour, du désir, des relations, s'est changé aussi avec l'âge, évidemment. Et c'est quelque chose qui est assez prononcé dans ce livre-ci, parce que c'est un livre d'un couple marié. Et ils ne vont pas divorcer. Ils restent ensemble aux dernières pages, mais quelque chose s'est quand même passé. Donc, mais c'est pas une question de rupture.
C'est assez rassurant parce que jusqu'à maintenant, on divorçait beaucoup dans vos livres.
Oui. Jusqu'à maintenant, on se divorce tout le temps.
On divorçait tout le temps. Et là,
cette fois-ci,
finalement, on reste ensemble.
Et j'ai été très très conscient du fait que cette fois-ci, on ne divorce pas. On reste ensemble. On est peut-être un peu plus mûr, je ne sais pas, mais de toute façon, on reste ensemble. Et il est plutôt question d'une histoire d'amour après qu'on n'est plus amoureuse.
Oui.
C'est ce qui pèse dans ce livre, l'amour après qu'on n'est plus amoureuse. Et comme ça, c'est un livre que je n'avais pas pu écrire quand j'avais 30 ans, évidemment. À l'époque, on se divorçait tout le temps. À l'époque, on avait l'idée qu'on peut changer sa vie complètement, qu'on peut faire complètement fait autrement avec sa vie. Et avec l'âge, vous avez fait la découverte que oui, c'était une possibilité, mais il ne l'est pas plus. Les choses sont faites, la vie a pris sa forme. Et ce qui est la surprise, il y a une liberté là-dedans aussi. Il y a une liberté de pouvoir rester fidèle à ce qui s'est passé avec vous. En fait, je me sens plus libre aujourd'hui que je me sentais à l'époque que j'ai écrit mon premier roman.
Alors vous êtes plus libre, à mon avis, aussi, parce que les enfants sont plus grands. Chacun connaît ça, évidemment.
Mais j'en ai été petits-enfants. J'ai divorcé une fois.
Je ne permettrai pas de rentrer dans ce cas-là, mais en tant que lecteur,
l'expérience,
ça m'a frappé. Oui. Cette fois-ci, Zoé, elle a quoi, 20 ans, 22 ans. Oui. Les enfants précédemment étaient plus des adolescents à problème. On a l'impression que vos enfants, vos enfants personnages, pas les vôtres, vieillissent au fur et à mesure des livres.
C'est très rare que je reviens à mes livres parce que c'est plus intéressant de concevoir un nouvel roman. Mais chaque fois que je le fais, il me frappe comment tous les livres sont mon vraie autobiographie. Parce que j'ai passé aussi pas mal de temps en les écrire, mais aussi parce que chaque livre reflète un âge, un temps, un niveau de mon développement à moi.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même, parce qu'on parlait de ça, on parlait de la manière dont chaque livre poursuit, prolonge, avec des incidents de nouvelles, avec, il faut vraiment les lire avec beaucoup d'attention, parce qu'on voit qu'il y a des choses effectivement qui évoluent, il y a des musiques qui changent un petit peu quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même, un jour, de se dire... Voilà, ça y est, c'est terminé.
C'est terminé. Oui. Et pendant des années, cela était un crainte. Et je ne dirais pas que je ne le crains pas plus, mais ces dernières années, je me suis dit, mais si je n'avais pas un roman à écrire, c'était surtout un problème économique ou social, parce que je ne sais pas très bien quoi faire si je n'écris pas. Mais c'est pas tragique au niveau littéraire pour moi de penser que peut-être un bel jour je n'ai plus à écrire, parce qu'il arrive, pour des écrivains que on a écrit ce qu'on voudrait bien écrire et on peut finir avec ça et faire autre chose.
Je pensais moins à ne plus écrire qu'à écrire quelque chose d'assez radicalement différent.
Oui, oui.
Je reprends toujours la comparaison avec Modiano. Quand Modiano fait Dora Bruder, ou peut-être plus encore quand Modiano écrit un Pédigré d'ailleurs, il y a une tentative d'aller vers l'autofiction. Bon, on a vu ça un peu dans le livre que vous avez publié au Mercure de France. Mais je pensais par exemple, parce qu'on sent bien que la manière dont le monde bouge ou dont il ne bouge plus vous intéresse, je pensais à ce qu'on appelle improprement, en bon français, le non-fiction novel. Voyez, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Il pourrait y avoir des tentatives ou,
En fait, j'ai fait quelque chose d'autre parce que je viens de publier un roman sous pseudonyme. Au Danemark, et c'est un polar, c'est un roman noir politique. Donc j'ai choisi un pseudonyme parce que c'est un livre qui est complètement différent de mes autres livres. Et c'était c'était pour me donner la liberté d'écrire comme si j'étais un autre écrivain, de faire complètement de quelque chose de nouveau. Et c'était assez drôle de le
faire.
Vous
y avez pris du plaisir.
Oui, c'était un plaisir, mais c'est pas pour changer voix comme écrivain, mais c'est pour me donner la liberté de faire comme si c'était un autre écrivain. Et en même temps, si on le lit, il n'est pas très difficile de lire que c'est moi qui l'ai écrit. Après quelques semaines, j'ai donné un interview pour admettre que c'était moi qui était l'écrivain, mais c'était aussi Une liberté en ce qui concerne les critiques et la réception, parce qu'on a une culture littéraire assez provinciale chez nous. Donc il y avait aussi une liberté en ce qui concerne la réception, le fait que pour une foire, c'était pas moi comme écrivain qu'on a critiqué, c'était un livre dont on ne connaît pas l'écrivain.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit un roman policier, un roman plus classique d'analyse psychologique, comme vous le faites, comme ceux qu'on connaît, nous, en France, qu'est-ce qui fait que, quand même, la fiction et le roman demeurent le moteur de votre création En France, je ne suis pas sûr qu'on soit toujours très à l'aise avec l'idée de roman. Vous savez, il y a cette phrase, pardon d'être un peu cuistre, mais cette phrase de Paul Valéry, où il dit « Le roman, c'est la marquise sortie à 5 heures ». C'est ça, hein?
Pour moi, le roman reste une manière de pouvoir réfléchir sur la vie dans un processus délicat où je traduis ce qu'est mon expérience dans une forme qui devient quelque chose d'autre. Et cela me donne une liberté beaucoup plus grande que l'autofiction. Parce que dans l'autofiction, il y a toujours les questions de la réception, les questions de les réactions des vivants qui font partie de votre histoire. Mais avec le roman, on se donne la liberté d'être beaucoup plus honnête, parce qu'on l'est en guise. Et comme ça, on peut s'ouvrir beaucoup plus, on gagne contact avec des pensées, des émotions qui sont cachées, qui sont restées à l'abri dans votre esprit. On peut les retrouver parce qu'on écrit sur des personnages qui ne sont pas vous, qui ne sont pas les personnages que vous avez connus. Et en même temps, c'est encore plus proche à vous qu'une autobiographie qui a toujours ses postures, ses manières de mettre en scène une vie. Comme ça, c'est ce qui est le paradoxe du roman. Le roman reste une manière d'être beaucoup plus honnête et en même temps de partager ce qui est votre expérience, le partager avec les lecteurs, parce que, et c'est un développement aussi, si je compare avec l'écrivain que j'étais dans ma jeunesse, parce que jeune, lorsqu'on est jeune, on veut bien exprimer son soi, son moi. Et avec l'âge, c'est devenu plutôt important d'exprimer ce qui est partagé dans la vie, ce qu'on partage avec les autres, parce qu'on a découvert qu'on n'est pas aussi unique comme on le souhaitait lorsqu'on était jeune.
Vous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être cette rencontre avec cette femme juive de Vilnius, anciennement Vilno, capitale du Yiddishland, donc effectivement les choses évoluent, qui avait donné naissance à ce livre. Mais plus que de parler de la naissance de ce livre, et des autres d'ailleurs aussi, est-ce qu'il y a un moment, toujours le même, toujours différent, jamais, où vous sentez que vous tenez la musique du livre, est-ce qu'il vous est arrivé de commencer quelque chose, d'écrire 50, 100, 150 pages, je ne sais pas, et puis d'arrêter parce que ça ne venait pas?
Oui, ça m'est arrivé parfois que j'ai commencé trop tôt, avant que j'avais un sentiment plus profond du ton de ce livre, de l'ambiance. Ce qui est le plus important, c'est plus important que connaître l'histoire. Mais il faut connaître le ton, il faut connaître l'atmosphère autour de ces personnages. Il faut pas que je les connaisse tout au bout, parce que, à mon avis, ça ne se fait pas. On peut pas connaître ni les gens dans la vraie vie, ni les personnages d'un roman. On peut essayer de les comprendre en sachant que on n'arrive jamais à tout expliquer. Mais il me faut ce sentiment de pouvoir sentir les personnages et pouvoir écouter la musique d'un roman. Et c'est pourquoi il faut attendre. J'ai un collègue qui est beaucoup beaucoup plus expérimentée que moi. Elle a dit un jour que ce qui est difficile dans le travail d'un écrivain, c'est quand on n'écrit pas. C'est attendre qu'un roman va se montrer, va se rendre possible pour vous. Et parfois, on attend un an, même plus d'un an, avant qu'on commence à écouter les voix, écouter le ton, sentir l'atmosphère autour de ces personnages. Donc, parfois, j'ai abandonné un manuscrit parce que cela ne s'ouvrait pas pour moi.
Jens Christian Grandahl, il n'y a de fidélité essentielle dans vos livres que celle qui vous lie, vous l'auteur, à vos lecteurs. Continuons comme ça, si vous voulez bien, continuons cette vaste histoire de couple. Et attendons, nous aussi, un an et demi, d'un livre l'autre. C'était Les Complémentaires de Jens Christian Grandahl chez Gallimard. Bon sens ne saurait mentir. Et c'est un livre formidable. Merci, mesdames et messieurs.
Merci.